Prendre de meilleures décisions avec Albert Moukébert. Bienvenue sur le rendez-vous du mercredi, le podcast qui t'aide à mieux gérer ton école, ton collège ou ton lycée. Eh bien bonjour, ce matin, voici deux situations particulières. Monsieur Dupont, chef d'établissement du collège Sainte-Rita, a reçu une plainte de la part d'un enseignant qui se sent harcelé par un de ses collègues. Monsieur Dupont doit maintenant prendre une décision sur la façon de gérer cette situation délicate. D'un côté, il ne veut pas accuser à tort l'enseignant accusé de harcèlement, mais il ne veut pas non plus minimiser la plainte de l'enseignant qui se sent harcelé. Monsieur Dupont se sent pris au dépourvu et ne sait pas comment agir. Une nouvelle situation. Cette fois-ci, c'est Madame Martin, chef d'établissement de l'école Sainte-Expédite, qui doit prendre une décision concernant l'organisation de la rentrée scolaire. Elle sait que la situation sanitaire est incertaine et que l'école pourrait être contrainte de fermer à nouveau si le taux d'infection d'un certain Covid-19 augmentait. Madame Martin doit donc décider comment organiser la rentrée de manière à être en mesure de réagir rapidement en cas de fermeture d'école. Et elle hésite. Voilà, bonjour, donc voici... Nouvelle innovation dans mon introduction, j'espère qu'elle te plaira, tu peux me le dire sur les réseaux. Et puis voilà donc deux situations que personne n'a jamais rencontrées, bien évidemment. Et comment être sûr de prendre la bonne décision dans une situation compliquée ou urgente, ou jusqu'alors inconnue? Eh bien pour y répondre, j'ai demandé à Albert Moukébert de me donner quelques pistes. Bonjour Albert, comment allez-vous?
Ça va et vous?
Très bien. Alors, est-ce que je peux vous demander, pour commencer, de me dire comment on devient Albert Moukébert? Et j'espère que je n'ai pas fait de faute de prononciation.
Non. Comment on le devient? Par les aléas de la vie, j'ai envie de dire. J'ai grandi au Liban. J'ai été un peu paumé quand j'étais jeune. Je n'étais pas le meilleur élève à l'école. Mon bac, je l'ai eu... in extremis, on va dire. Je savais pas trop ce que je voulais faire. J'étais un peu geek, j'avais bien l'informatique, etc. Donc, je me suis lancé un peu en informatique, donc rien à voir. Mais je détestais les cours d'informatique. Et j'étais dans un système qu'on appelle américain. J'étais à l'université américaine de Beyrouth. On peut choisir des cours un peu dans tous les départements. C'est pas comme en France. En France, si on étudie en psycho, on peut pas prendre des cours d'architecture, par exemple. Alors que dans le système américain, il y a des cours qui s'appellent des electives, c'est des cours optionnels. La différence des UE optionnels en France, les UE optionnels dans le système peuvent venir de n'importe où, de la fac, dans n'importe quel départ. Donc, j'ai commencé à apprendre des cours un peu à droite, à gauche, pour voir ce qu'il y a quelque chose qui m'inspire. Et un jour, j'ai pris un cours de psycho. Et soudainement, j'étais devenu un bon élève. J'avais des notes qui étaient... significativement meilleur que mes notes habituelles. Et j'étais aussi secouriste en parallèle. J'aime bien le contact avec les patients, j'aime bien écouter les gens depuis jeune, de manière naïve. Ah, j'aime bien que les gens, je vais faire psy. Alors que c'est vraiment une très très mauvaise raison de faire psy. Je le dis pour s'il y a des personnes qui... Après, j'ai fait des neurosciences quand je suis arrivé en France, au labo. J'ai découvert un peu les neurosciences de manière un peu plus précise. Je trouve ça... J'aimais beaucoup ce côté qui a lié aussi bien la base biologique que le côté plus propriété émergente. En France, il y a aussi un autre truc, c'est qu'on a les matières littéraires et les matières scientifiques. Alors que dans le système américain, par exemple, ma faculté, ça s'appelait la Faculty of Arts and Sciences, la faculté des arts et des sciences. Les arts et les sciences sont à la même faculté et qui sont séparés, par exemple, de la faculté d'architecture ou de la faculté de business. Donc, j'avais ce double profil un peu où j'avais un DUG en biologie, donc une matière scientifique, et j'ai un bac S. Et j'avais une licence en psychologie, qui en France est classifiée plutôt chez les littéraires. Et les neurosciences et la psychologie, maintenant, demandent parfois plus de compétences, on va dire, technologiques. Il y a les thérapies par réalité virtuelle, les trackers oculaires, les casques EEG. Il faut avoir un peu de connaître comment programmer un peu pour pouvoir faire des analyses IRM, etc. Et j'avais un peu ce double profil, donc on m'a proposé une bourse pour faire une thèse. Et après, les choses se sont enchaînées de rencontres en porte qui s'ouvre et porte qui se ferme.
Très bien, merci. Eh bien, donc ma question de ce matin, c'est selon vous, quels sont les principaux biais cognitifs qui peuvent influencer notre capacité à prendre des bonnes décisions? Comment pouvons-nous les identifier et les surmonter?
Premièrement, il faut savoir que les biais cognitifs sont contextuels, donc ils dépendent de la rencontre entre un cerveau, un corps et un environnement. C'est pas quelque chose qui est juste dans mon cerveau. Donc, le lundi, je peux avoir une situation et très bien la gérer, et le mardi, que ça soit un peu plus compliqué. La deuxième chose, il faut pas tomber dans le piège des biais, paradoxalement, de croire que si j'ai mal fait quelque chose, c'est automatiquement dû à mon biais cognitif. Les biais peuvent être utiles parfois, et peuvent être pas très utiles parfois. Et c'est important de faire la distinction, que ça ne devienne pas une sorte d'alpha et d'oméga de l'explication des comportements humains. Et troisièmement, on peut pas ne pas en avoir. C'est une sorte de prix à payer pour le fonctionnement de notre cerveau. On peut juste essayer de corriger. Et donc, la première chose qu'il faudrait pouvoir faire, c'est d'être prêt à changer d'avis. On a tendance à vouloir tout le temps chercher les biais chez les autres. Quand je discute avec quelqu'un, j'essaie de comprendre pourquoi il est pas d'accord avec moi. Et le but, c'est de faire une sorte de changement de point de vue, de se demander pourquoi est-ce que je suis pas d'accord avec lui, peut-être que cette personne, ou avec elle, peut-être que cette personne... Peut-être c'est à moi de changer d'avis, pas tout le temps essayer de convaincre l'autre de changer d'avis. Et troisième chose, c'est de questionner est-ce que c'est moi, ou est-ce que c'est le contexte aussi, on appelle ça les différents niveaux explicatifs. Entre comprendre quelque chose, il faut trouver le bon niveau explicatif. Est-ce que le niveau explicatif, c'est l'individu? Est-ce que le bon niveau explicatif, c'est le groupe, par exemple l'établissement scolaire? Ou est-ce que le bon niveau explicatif est parfois plus large? La ville dans laquelle se trouve un établissement scolaire, le pays, ça, dans votre introduction, vous donnez l'exemple d'une directrice d'école qui doit faire face potentiellement à une refermeture à la rentrée. Le bon niveau explicatif n'est pas du tout son cerveau, par exemple. D'agir sur ses biais cognitifs va être très utile parce que c'est hors de son contrôle, c'est le gouvernement qui décide et elle doit suivre. Sa marge de manœuvre, c'est juste de préparer son établissement aux différentes éventualités qui vont lui arriver d'un niveau explicatif plus large qu'elle, notamment le niveau explicatif de ce que décide le gouvernement. Et donc, à chaque fois, il faut questionner, on appelle ça le locus de contrôle, quelle est ma marge de manœuvre, quelle partie de ma marge de manœuvre est-ce que je contrôle, et quelle partie m'échappe, et comment délibérer entre ces deux pour réduire les chances où j'essaye d'agir sur quelque chose qui m'échappe, ou je me prends la tête sur... ou je n'agis pas sur quelque chose qui est sur mon contrôle. Et c'est tout ce questionnement-là, et je pense que ça, c'est parmi peut-être les biais les plus importants, c'est sur quoi est-ce que je peux agir, sur quoi est-ce que je ne peux pas agir, est-ce que je suis en train d'essayer d'agir sur des choses qui m'échappent, ou... inversement, de ne pas agir sur des trucs qui seraient sous mon contrôle. Et après, on a les biais les plus classiques, les biais de confirmation, les biais de sélection.
Il y en a beaucoup, hein. J'ai fait quelques recherches là-dessus.
Il y en a plus de 200. Après, c'est 4-5 grosses familles. Et après, c'est des sous-types, souvent, d'accord, de biais. Il faut aussi savoir que les biais ne viennent jamais seuls, ils viennent ensemble. Donc, on a rarement un comportement, un biais. Par exemple, je vais voir un raisonnement motivé, plus un biais de sélection, plus une négligence du taux de fréquence de base, plus un biais, je sais pas, un biais du faux consensus, et tout ça va coalescer ensemble avec mon passif, avec une personne, etc., pour expliquer un certain comportement.
Donc la première des choses à faire, en fait, quand on a une décision à prendre, c'est bien réfléchir sur ce sur quoi on peut agir et ne pas agir, et de travailler uniquement sur ce sur quoi on peut agir.
Exactement.
Voilà. Et à partir de là, effectivement...
Est-ce que c'est un truc de groupe? Parce qu'il y a, donc on a éliminé l'échelle Macron, hein, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est un truc de groupe? Est-ce que c'était pour de moi? Le premier exemple que c'est donné, du prof qui a des problèmes avec un autre prof, ça comme ça. Ça dépend pas juste de moi. Par exemple, je sais pas, si imaginez que moi je bosse dans un établissement ou dans une boîte, et mon patron est toxique, et donc je suis déprimé. Essayer de comprendre ma dépression et le fait de l'extérieur. Donc ma dépression est presque dans son cerveau avant que ça soit dans le mien. Et donc de voir est-ce que c'est quelque chose qui est juste de moi ou du groupe. Donc là, on parle d'un groupe où on a des contacts directs. Dans le premier exemple, on parlait de gouvernement. J'ai pas de contact direct avec le gouvernement. Je peux appeler le Premier ministre et dire, Hey, qu'est-ce que tu veux faire lundi? Alors que mes collègues, il y a un conflit au travail, etc. Je peux parler avec mon supérieur hiérarchique. Je peux aller voir mon collègue. Dire, est-ce que tu as un problème avec moi? Tu veux lui expliquer, peut-être qu'il n'en a pas conscience. Est-ce que j'en ai déjà parlé avec lui, avec elle, etc., etc., etc. Donc, qu'est-ce qui aussi, quelle est la sphère dans laquelle se joue ce dont je suis en train de, ce dont auquel je fais face. Mais après, voir comment on avance de là.
Et alors dans la vie quotidienne, dans ce genre de situation, comment on peut améliorer quand même la capacité à prendre des décisions rapidement et efficacement? Est-ce que je prends des fois l'exemple du pompier qui va rentrer dans une pièce et va savoir tout de suite qu'il ne faut pas qu'il continue parce que c'est trop dangereux. Et
C'est
donc,
l'expérience
voilà, c'est vraiment
et la
s'appuyer sur l'expérience.
répétition. Mais après, il y a une manière d'apprendre à apprendre, c'est-à-dire d'apprendre consciemment. On apprend beaucoup de choses de manière implicite, on apprend certaines choses de manière explicite. C'est comment est-ce que je conscientise ce que je suis en train d'essayer d'apprendre au lieu d'attendre que mon cerveau comprenne ce qui est en jeu de manière implicite, juste par effet de répétition. C'est vraiment de l'explicitation de l'apprentissage. Il n'y a pas une manière universel parce que les biais sont contextuels. Moi, ça fait 20 ans maintenant que je travaille sur les biais. J'ai autant de biais qu'une personne qui n'a jamais entendu parler du mot biais. C'est juste que peut-être moi, je me méfie un peu plus de moi dans certaines situations où j'ai appris explicitement à identifier des biais de situation-là, dans certaines situations de psychologie clinique, dans le design expérimental, du manip de neurosciences, etc. Mais si on est en road trip ensemble et notre voiture tombe en panne, je vais être aussi biaisé que n'importe quelle personne parce que je ne m'y connais pas en mécanique. Pour pouvoir avoir un meilleur raisonnement critique, il faut se connaître dans le sujet auquel je suis en train de réfléchir de manière critique. C'est ça le danger aussi de même certaines personnes qui travaillent sur le raisonnement critique se disent, Ah, on a compris comment fonctionne la méthode scientifique, le double aveugle, etc. Donc maintenant, on peut avoir des opinions informées, je ne sais pas, sur les OGM. Ou sur le réchauffement climatique, ou sur la réforme des retraites, ou je ne sais pas sur quoi. Alors que non, il faut une certaine aussi, on appelle ça la bonne connaissance épistémique d'un sujet. Et c'est vraiment une sorte de condition sine qua non pour pouvoir fonctionner, c'est de maîtriser un sujet. Et ça passe par le temps, par l'apprentissage, par la diversité des expériences. Un pompier, il va faire des manœuvres. Il va faire plusieurs. Il va aller jamais aller sur un feu sans des supérieurs à lui qui connaissent déjà les feux. Il va aussi apprendre explicitement les différents types de feux, les différents types de flammes, de substances flammables. Est-ce que du coton, ça réagit de la même manière
L'huile ou
que voilà, qu'une moquette, que des synthétiques. Quand est-ce que je dois mettre de l'eau? Quand est-ce qu'il faut surtout pas que je mette de l'eau parce que c'est un incendie chimique, etc. Et ça a un coût. Genre l'apprentissage, c'est quelque chose qui coûte. Mais qui coûte.
Alors, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un jeune chef d'établissement?
Difficile parce que je m'y connais pas beaucoup. Hein. Comment, c'est quoi
Un
le
chef
quotidien?
d'établissement, bah, c'est une personne qui prend des décisions, on va dire. À une
Moi,
personne
je pense
voilà, qui démarre
surtout
dans le métier et qui va avoir des.
de s'entourer de personnes qui peuvent jouer des garde-fous. Le raisonnement critique, c'est souvent pas réfléchir par soi-même, c'est plutôt savoir réfléchir, comme disait Gaston Bachelard, réfléchir contre son cerveau et du coup avec le cerveau des autres. Et donc, c'est avoir des équipes à qui on peut déléguer, qui peuvent nous déléguer, et surtout où il y a ce qu'on appelle une sûreté psychologique, je me sens en sécurité avec ces gens. Je suis pas en train de me dire, ah, si je partage cette information avec quelqu'un, il va peut-être l'utiliser contre moi, ou je sais pas quoi. Et savoir vraiment. J'imagine qu'un chef d'établissement, c'est comme un, je sais pas, chef de boîte, etc., etc. Souvent, on veut s'entourer de personnes qui nous facilitent la vie, pas de personnes où je dois faire une charge mentale en plus, où je dois repasser derrière le travail de tout le monde. Et je dirais que un jeune chef d'établissement doit s'assurer principalement qu'il est entouré de personnes qui sont bienveillantes à son égard, vers qui il est bienveillant aussi, où il y a une sorte de confiance qui est en place. Qui fait que on n'a pas besoin d'être sur nos gardes. les uns avec les autres. Oh, il faut se rappeler qu'on est profondément, profondément des animaux sociaux. Et on ne peut pas penser la prise de décision sans son aspect social.
Alors, je vous ai entendu parler dans un autre podcast sur de la résilience. Quel est son rôle dans la prise de décision?
C'est combien est-ce que je perds en fonctionnalité, entre guillemets, ou en fonctionnement quand je suis face à une situation difficile? Des situations de très forte incertitude, des coups durs. Et donc, c'est combien je chute par rapport à ma baseline, à mon fonctionnement de base, quand je suis face à une situation difficile, et être résilient, c'est juste chuter moins. Donc, c'est pas aller bien tout le temps, c'est aller moins mal que si j'étais pas résilient. Pour expliquer ça de manière très simple. Comment est-ce que je peux conserver? Parce qu'on a nos compétences et on a ce qu'on appelle l'accès aux compétences. Et ça, en tant que dirigeant d'établissement scolaire ou n'importe quel prof le connaît très bien, parce qu'il y a plein d'élèves qui, par exemple, font les devoirs chez eux à la maison ou même en classe parfois, les réussissent très bien. Donc on sait qu'elles ont des compétences, mais le jour de l'examen,
Ils ont
elles
plus
loupent.
accès.
J'ai un trou de mémoire, faute d'inattention, machin, machin. Et donc ces fautes-là ne peuvent pas être expliquées par un manque d'intégration de la connaissance. On sait que la connaissance, elle est dedans, parce que la personne réussissait parfois quelques heures avant l'examen. Par contre, il y a un problème d'accès aux compétences. Et l'accès aux compétences a besoin de certaines conditions pour qu'il puisse se faire, ne pas être très stressé, etc., etc. Et donc, je dirais que la résilience, c'est moins perdre en accès aux compétences que quand on n'est pas résilient. Et donc, on le dit d'ailleurs, on perd nos moyens. Mais en fait, ce n'est pas vrai, on est en train de plutôt perdre l'accès à nos moyens. Nos moyens sont encore là, mais on n'a plus accès.
Là, on approche de la fin de l'épisode. Est-ce que vous auriez un livre à nous partager? Alors, quel que soit un livre que vous aimez bien et que vous...
Est-ce qu'il y a un livre que j'aime bien et partager? Qu'est-ce que j'ai lu récemment? Penser de manière plus récente. Il y a un livre que j'ai lu il y a un moment, mais qui est sorti récemment dans sa version française. Je vais essayer de trouver le titre en français de Hugo Mercier. En français, pas né de la dernière pluie.
Pané de la dernière
Pas
pluie.
né de la dernière pluie de Hugo Mercier. Et je l'aime bien parce que je l'avais lu en anglais quand il est sorti à un moment. Parce qu'il va contre une sorte de récit qu'on a tendance à se raconter qu'on est crédule, qu'on est biaisé, etc., etc. Et Hugo explique très bien pourquoi. On n'est pas aussi crédule que ça. C'est plus une question de à qui est-ce qu'on accorde notre confiance, plutôt qu'on est facilement biaisé, facilement berné. Et donc, je trouve ça. J'adhère un peu
À l'idée.
à l'idée.
Et alors, autre question, est-ce que vous avez un mentor ou un mantra qui vous accompagne?
J'ai un mantra, c'est pas un mantra de langage, c'est une sorte de geste, de hausser les épaules et faire genre, pourquoi pas, genre j'ai le truc de, ok, c'est un peu ça, c'est mon attitude générale, c'est genre, ok,
Pourquoi pas? Ok.
pourquoi pas, ok, voilà.
Alors, petite dernière question. Je vous demandais de penser à un chef d'établissement scolaire, quel qu'il soit, hein, quel que soit le niveau, et puis qui vous a laissé de bons souvenirs. Et maintenant, un chef d'établissement qui vous a laissé de moins bons souvenirs.
Ok, c'est plus facile ça.
Et quelles seraient donc, quelles sont, pardon, les qualités, les défauts?
Je vais commencer par la deuxième, qui m'a laissé de mauvais souvenirs, donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de qualité. Mais les défauts, c'était de faire sentir aux élèves auxquels on ne croit pas, qu'on ne croit pas en eux. Peut-être pas tout le temps par le verbalement, mais par répétition, ou clairement, on voit la résignation par rapport juste à certains élèves, que ce soit par comment le ou la chef, peut-être je pense, parlait avec d'autres élèves, ou comment il parlait avec des élèves auxquels il ou elle ne croyait pas. Et je pense que ça, c'est très
Très nocif.
délétère à n'importe quel âge, jusqu'à ce qu'on arrive à un âge adulte. Si l'âge est 40 ans et bosse dans une boîte et mon patron ne croit pas trop en moi, je suis assez bien constitué, je pense. Ça va m'affecter, hein. Ça va pas avoir les mêmes conséquences potentiellement désastreuses que lorsqu'on est plus jeune et qu'on essaye de bosser, qu'on essaye d'apprendre, mais pas nous aider. Et sur le premier, un chef d'établissement qui m'a marqué positivement, je dirais c'est quand on n'infantilise pas les jeunes ados, je veux dire, à partir de 11-12 ans, quand on fait sentir un enfant qu'on ne lui parle plus comme s'il était un enfant, qu'on lui fait part de parfois de nos inquiétudes, de nos raisonnements, de pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Quand on arrête de dire parce que c'est comme ça, genre, je suis pas un ado de 4-15 ans qui dit à quoi ça sert d'apprendre la trigonométrie, qu'on lui dise pas juste parce que c'est comme ça. Parce que c'est sûr qu'à 15 ans, pourquoi est-ce que je fais cosinus, sinus, tangente, machin. Je pense que c'est important de réaliser que l'apprentissage se fait mieux quand on a une relation moins verticale. Ça ne veut pas dire qu'on doit être tous égaux. Je suis pas fan de cette horizontalité à tout va, parce que évidemment le prof c'est mieux que l'élève. Ils ne sont pas experts de la même manière. Mais on n'a pas besoin non plus d'être dans les ordres de hiérarchie quasi militaire. Tu m'obéis une fois que on commence à se constituer cette cognition sociale, qu'on commence à arriver à l'adolescence, il y a plein de changements difficiles, on n'a pas besoin de rajouter une couche où on sent que tout le monde a un peu bullshit.
Ok. Merci. Alors maintenant, où est-ce qu'on peut te retrouver?
Dans mon quartier, j'habite dans le 10e arrondissement de Paris, c'est un
Et
peu.
sur Internet.
Sinon, ouais, sur Internet, sur Google, sur YouTube, sur Facebook, sur les réseaux.
Ok. Très
Dans mes
bien.
livres.
Et dans les livres, tout à fait. D'ailleurs, c'est la première chose qu'on trouve quand on recherche.
Ouais, ça fait plaisir.
Très bien. Ben, un grand merci.
Merci à vous. Merci pour l'invitation.
Un grand merci pour ton écoute. Je suis François Jourdain et chef d'établissement d'une école et formateur. On se retrouve tous les mercredis pour partager nos astuces, nos expériences et rencontrer des personnes inspirantes. Tu souhaites recevoir une fois par mois un texte ou un document que j'ai créé sur des sujets divers? Abonne-toi à ma liste de diffusion. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode ou sur mon site. Je te dis à très bientôt sur le rendez-vous du mercredi, le podcast des chefs d'établissement, parce que gérer une école, c'est bien, mais partager, c'est mieux et ça rend heureux.